5, 4, 3, 2, 1, c'est parti.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par Saint-Ish Mantar Tomté et Liliane Niacha. Le débat.
Et nous sommes ravis de vous accueillir sur BBC Afrique et Africa Radio pour un nouveau débat. Bonjour à tous et à toutes. Liliane Niacha, bonjour.
Bonjour Saint-Ish Mantar Tomté. Bienvenue à tous pour cette autre édition du débat BBC Afrique, Africa Radio. Et premier sujet, Saint-Ish, la République démocratique du Congo. Lambert Mende, l'un des visages les plus connus du pouvoir, Joseph Kabila, rejoint l'union sacrée voulue par le président Tshisekedi.
Il s'agit sans aucun doute d'un gros poisson du Front commun pour le Congo qui tombe dans l'escarcelle du président Tshisekedi. Mais Lambert Mende refuse de parler de trahison envers Joseph Kabila, qu'il a défendu plus d'une décennie en tant que ministre de la République. Alors, quelle place pour le CCU, le parti de Lambert Mende, dans un attelage où figurent déjà Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba, également des adversaires d'hier? Le débat à suivre, Liliane.
Et en Centrafrique, Bangui retient son souffle. Mercredi, les rebelles ont mené des offensives à la périphérie de la capitale, une démonstration de force de leur capacité à atteindre le cœur du pouvoir centrafricain.
Des rebelles repoussés, tués, certains capturés, dont un présenté à la télévision nationale centrafricaine comme un combattant étranger sans précision sur sa nationalité. Pendant ce temps, la pénurie des denrées dans la capitale s'installe. La stratégie d'asphyxie employée par les rebelles peut-elle forcer le pouvoir du président Touadéra à la négociation? Nous en débattrons également.
L'opposition béninoise tente de resserrer ses rangs en vue de la présidentielle du 11 avril prochain. Le président Patrice Talon doit-il s'en inquiéter?
Patrice Talon, qui jusqu'à présent garde le suspense sur sa candidature pour un second mandat, les opposants, eux, semblent convaincus et ils se préparent avec la création de cette nouvelle alliance baptisée le Front pour la restauration de la démocratie. La loi électorale et la très controversée question du parrainage est toujours d'actualité. Quelles sont donc les chances des opposants béninois? Analyse et commentaires à suivre, mais d'abord le panel avec vous, Liliane.
Merci Saint-Ish. Jean-Thierry Mosenuepo, président national de la Ligue des Jeunes de la Convention des Congolais Unis, parti de Lambert Mende, est notre invité cette semaine. Monsieur Mosenuepo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cette semaine. Deux journalistes nous accompagnent. Albert Mbaya, journaliste et analyste politique centrafricain en ligne de Bangui. Bonjour Albert. Albert qui ne nous entend manifestement pas. Léonce Gamay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste manager du site d'information banuto.info à Cotonou, au Bénin. Voilà pour le plateau Saint-Ish de cette semaine. Premier sujet avec vous.
La RDC, et c'est au nom du parti le CCU et allié que Lambert Mende dit rejoindre l'Union sacrée, qui n'est pas un parti politique ou un regroupement, mais une coalition gouvernementale et une solution pour réussir la cohésion nationale. Ce sont les mots de M. Lambert Mende. Pourtant, l'adhésion de l'un des barons du FCC, de Joseph Kabila, à une initiative du président Félix Tshisekedi n'est pas une banale affaire politique, surtout en cette période où le Front commun pour le Congo a plus que jamais besoin de sa majorité parlementaire. L'élection du nouveau bureau de l'Assemblée nationale et une éventuelle motion de destitution du Premier ministre Sylvestre Ilunga étant les prochains rounds de cette bataille politique qui oppose les camps Kabila et Tshisekedi. Et justement, notre grand témoin, c'est vous, M. Jean-Thierry Mosenuepo. Vous auriez affirmé sur un média local en RDC que l'adhésion de votre parti à l'Union sacrée est une recommandation de Joseph Kabila, qui est autorité morale du FCC. Est-ce que vous confirmez, M. Mosenuepo?
Oui, je le confirme, puisque au lendemain de la chute du bureau de Mme Mabunda, anciennement présidente de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, qui était un membre influent du FCC, le président honoraire Joseph Kabila a mis en place un comité de crise qui devait scruter les différents problèmes pour essayer de dégager une solution consensuelle, pour essayer de sauver le meuble au sein de la formation politique FCC.
Et donc l'adhésion de votre parti est cette solution proposée ou voulue ou acceptée par Joseph Kabila?
Non, mais écoutez, justement ce comité de crise s'est rendu après avoir parlé avec les députés nationaux et les membres de nos différents regroupements qui faisaient partie du FCC au chevet de Joseph Kabila pour l'écouter et lui faire le rapport. Ainsi, il va renvoyer ce comité avec 5 propositions de solutions, parmi lesquelles il y avait la possibilité de négociation avec le pouvoir du président Félix Tshisekedi. C'est donc cette solution-là que notre parti politique a choisi, puisqu'à notre humble avis, cela sauve la République démocratique du Congo des tensions inutiles, des querelles intestines politiques. Donc pour nous, cette recommandation de Joseph Kabila, qui figure parmi les 5 qu'il a envoyées aux sociétaires du Front commun pour le Congo, est pour nous la meilleure, et nous avons, en toute indépendance et en responsable, pris cette responsabilité pour essayer justement de discuter avec le président Tshisekedi qui a reçu l'honorable
ministre et moi-même. Est-ce juste parce que cette solution fait partie de celle proposée ou acceptée par le leader moral du FCC que vous l'aviez acceptée, ou vous avez reçu des gages, des promesses pour rejoindre cette union sacrée?
Pas du tout. Le jour où le président de la République a reçu l'honorable Mende en audience, il a été question, c'est vrai, d'autres tâches de sa responsabilité à la tête de LMC, mais aussi des questions politiques. Et là-dessus, il y a eu des questions claires qui ont été posées au président de la République, notamment sur la nature de l'Union sacrée. Et le chef de l'État a eu l'amabilité d'éclairer l'opinion, d'éclairer la lanterne de l'honorable Mende et moi qui l'accompagnais, sur la nature de cette coalition de gouvernance, puisque le président de la République précise le fait que les différents partis politiques gardent leurs identités, mais ils s'alignent derrière cette vision de gouvernance qui se place dans le giron de la lutte contre la corruption, du développement social et économique de notre pays, de la lutte contre l'insécurité récurrente que l'on note dans le Grand Nord et dans l'Est de notre pays. Et c'est tout cela qui nous a décidé de rejoindre cette vision présidentielle de l'union sacrée de la nation.
Alors, Monsieur Monsenepo, vous venez d'affirmer que le président Kabila, autorité morale du FCC, a autorisé ce rapprochement de Lambert Mende avec le président Tshisekedi. Il s'agit là d'une nouvelle posture. Est-ce que cela signifie que le FCC est mort?
Je pense qu'il ne faut pas personnaliser la chose pour dire que le président honoraire Joseph Kabila n'a autorisé que Lambert Mende. Il a ainsi envoyé un message aux sociétaires du FCC pour dire, mais écoutez, nous sommes là dans une impasse, il faut essayer de réfléchir de ce que nous pouvons faire pour sauver les choses. Et parmi ces actions à faire, il a proposé le dialogue. C'est ce que nous avons fait. Alors, en ce qui concerne le fait que le FCC soit mort ou pas, l'autorité morale du FCC n'en a pas encore décidé ainsi. Il est à Lubumbashi, à 2000 km de Kinshasa, où il reçoit certains sociétaires du FCC. Je pense que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore eu un acte de dissolution du FCC.
Mais un acte de décès du FCC,
la convention
n'existe, oui, n'est pas encore, voilà.
Cet acte n'a pas encore été signé. Mais en ce qui concerne la Convention des Congolais Unis, notre parti politique et notre regroupement politique, nous avons décidé, quant à nous, de rejoindre la vision du président de la République au sein de l'union sacrée de la nation.
Dans ce rapprochement, Monsieur Monsenepo, il y a 3 possibilités. Je l'ai entendu de certains Congolais. Soit il s'agit de se rapprocher du pouvoir pour espérer échapper à d'éventuelles poursuites judiciaires, parce qu'on en a vu au sein avec le nouveau pouvoir, soit il s'agit d'une stratégie adoptée par le FCC qui est celle de combattre l'ennemi de l'intérieur, ou alors il s'agit simplement de ce qu'on appelle aujourd'hui le sauf qui peut au sein du FCC. Chacun va dans le sens qui l'intéresse pour espérer se protéger.
Rien de ces 3 éléments,
la
madame.
La tête de ces obscènes est plus proche de la réalité.
Non, il n'y a aucune de ces 3 propositions-là. Parce que déjà, lorsque vous parlez du fait que adhérer à l'union sacrée de la nation, c'est fuir à des poursuites judiciaires, c'est déjà faux, puisque la vision du président de la République, c'est d'établir une justice distributive, une justice qui soit au milieu du village et qu'une justice qui ne soit pas instrumentée. Et je ne pense pas, contrairement à ce que pense une certaine opinion, que le FCC n'ait remplie que de bandits qui n'attendent que d'être déférés devant la justice.
C'est votre leader qui l'a dit, dans une interview, que parmi les conditions, les trois conditions posées au président Tshisekedi pour rejoindre l'Union sacrée, il y avait bien l'abandon de toute idée de chasse aux sorcières. Donc, cela signifie pas de poursuite, abandon de poursuite judiciaire et une sorte de conseil, de garantie de la consécration de l'impunité aux membres du FCC. C'est même M. Mende qui l'a dit.
Je pense que vous avez mal compris. Je vais vous expliquer clairement. D'abord, il faut savoir, et je veux vraiment éclairer l'opinion là-dessus, et vos auditeurs, c'est que il n'est pas question ici en République démocratique du Congo qu'il y ait une justice à deux vitesses, c'est-à-dire une justice de ceux qui étaient FCC et une justice de ceux qui aujourd'hui sont dans l'Union sacrée. La justice, elle est là pour tous les Congolais de manière égalitaire. Et le président de la République a ça comme vision et nous appuyons cette vision puisque on ne peut pas penser construire une nation en consacrant l'impunité. Lorsque l'honorable Mende parle des trois, pas conditions, mais des trois points discutés avec le président de la République, il fait allusion à l'ancien président Joseph Kabila dans les termes que le président actuel Félix Tshisekedi Tshilombo a une responsabilité historique qui est celle de pouvoir endiguer quelque chose qui aujourd'hui ressemble à un malheur pour notre pays, où tout président qui arrive se retrouve avec un ancien président qui n'existe plus. Soit qu'il a été arrêté, pour le cas de Lumumba presque tué, soit qu'il a été assigné à résidence, comme c'était le cas de Kasavubu Sumobutu, soit qu'il a été assassiné au pouvoir, comme c'était le cas de Mouzé. Donc, il fallait que le président Félix Tshisekedi puisse garantir la sécurité sur le sol national à son prédécesseur.
Okay. Non pas alors, qu'il faut monsieur Monsenepo, alors oui, donc si on vous comprend, si on vous comprend dans vos propos, monsieur Mende a plutôt plaidé pour la sécurité en quelque sorte de l'ex-président Joseph Kabila.
Soit. Exactement.
Voyons maintenant je parlais tout à l'heure de ces deux prochains rounds dans cette bataille politique, même si monsieur Mende s'est refusé sur les médias congolais a parlé de bataille ou de guerre politique. La vérité et la réalité est là. Le camp Kabila et le camp Tshisekedi s'affrontent sur le plan politique. Les prochains rounds pourraient être donc cette éventuelle motion de destitution de l'actuel Premier ministre, M. Ilunga. Quelle va être la posture des députés CCU et notamment de M. Mende?
D'abord, il faut savoir que depuis hier, l'honorable Mende et les députés de la CCU ont entrepris des démarches pour essayer de faire comprendre à l'actuel Premier ministre que la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, qui est l'émanation même de son pouvoir, n'est plus du tout de son côté et qu'il faut qu'il évite de se faire humilier par une motion de défiance au niveau de l'Assemblée nationale. Mais au moment où cette motion est déjà prête et que cela cadre avec la vision du président de la République, qui dans quelques jours va diriger l'Union africaine et a besoin d'un Premier ministre en qui il a confiance. Mais tenez-vous bien, madame, que les députés de la CCU qui ont signé l'acte d'adhésion à la vision du président de la République ne vont pas hésiter un seul instant pour signer cette motion de défiance contre le Premier ministre Lukamba et son gouvernement.
Vous voterez donc la motion de destitution?
Mais bien entendu.
En contrepartie de quoi?
Madame, vous devez savoir que la première et la plus grande contrepartie, c'est d'abord à ce que le Congo puisse aller de l'avant. Vous savez que depuis la crise qui s'est installée politique entre le FCC et le CASH en fin d'année écoulée, a sérieusement fait reculer l'élan de développement de notre pays. Il n'est pas question qu'à chaque fois, à chaque tournant important, notre pays puisse autant reculer. Nous avions tous ici au Congo et bien sûr en Afrique, fêter l'alternance que le Congo a connue en janvier 2019. Il n'est donc pas question, à notre point de vue, que cette alternance qui aujourd'hui peut permettre à ce que notre pays puisse poursuivre l'élan de développement que Joseph Kabila a insufflé depuis 18 ans, puisse s'estomper. Donc c'est ça notre principale motivation.
Quelle est la vision, de manière concrète, de votre parti, de l'Union sacrée, défendu par le président Tshisekedi et que vous avez rejointe aujourd'hui?
Nous sommes mieux placés pour défendre cette vision, d'autant plus que nous avons eu la chance, surtout moi, d'accompagner l'honorable Mende lors de cette audience nous accordée par le président de la République. Cette vision se base principalement sur la lutte contre la corruption. Madame, il faut le préciser, que notre pays, certes, qui a été mis sur les rails du développement, a eu à atteindre son élan et sa vitesse de croisière à cause principalement de la corruption. Deuxièmement, c'est le besoin de développement de nos provinces. Aujourd'hui, presque 5 ans après le démembrement que nos provinces ont connu, il y a une lenteur terrible en ce qui concerne les infrastructures de base qui permettraient à nos entités décentralisées de pouvoir se développer. Et troisièmement, il y a la question pertinente et qui est toujours là de l'insécurité à l'Est. Vous apprenez que presque 6 personnes meurent chaque jour à Beni et dans les environs. Il est donc ici question à ce que les Congolais se mettent ensemble pour que nous puissions avancer, parce qu'il faut préciser une chose, c'est que le Congo est un pays mosaïque, que ce soit dans le sens culturel ou même dans le sens des tribus, nous en avons 450, et même aussi sur le plan politique. Donc il n'y a jamais eu depuis 1960 un seul gouvernement qui ait réussi à travailler sans qu'il y ait un apport des autres forces vives. Et c'est justement ça qui a motivé le président à ce qu'il puisse élargir l'assiette de gouvernance pour permettre à ce que, au-delà de ses anciens partenaires du FCC, qu'il y ait d'autres forces vives qui participent aujourd'hui pour essayer d'avancer dans le cadre de ce que je viens de vous citer comme priorité.
Liliane, nous avons été rejoints par notre confrère Albert Mbaya depuis la Centrafrique. Albert, vous êtes là ?
Oui, je suis là, je vous suis.
D'accord. Liliane, je vous propose d'écouter rapidement nos confrères. Oui.
Oui.
Alors, nous allons prendre Léonce, peut-être, qui a suivi le débat dès le début. Léonce Gamay ?
Oui, allô ?
Oui, votre avis sur cette actualité politique en République démocratique du Congo, Lambert Mende, cadre connu du FCC qui rejoint l'Union sacrée de Félix Tshisekedi, vous, qu'est-ce que vous en pensez ?
Non, c'est vrai que c'est une actualité, l'actualité congolaise. Congolaise, c'est une actualité que nous suivons de près depuis le Bénin. Et de façon, une observation large, c'est la première interprétation que nous avons de ce ralliement-là, c'est que c'est un gros poisson, parce que Lambert Mende a quand même été porte-parole du régime Kabila pendant de longues années. Donc lorsque le porte-parole vient à rallier le camp Tshisekedi dans un contexte de bras de fer et de défiance, on estime que c'est un... C'est un ralliement, c'est un gros poisson. Maintenant, l'interprétation qu'on a, c'est que nous assistons à une certaine reconfiguration de l'univers politique au Congo. Après quand même un peu plus de 2 ans, ou si vous voulez, environ 2 ans de cohabitation dans cette alliance-là, le président Tshisekedi, qui visiblement est dans une logique de reprendre la main ou d'avoir totalement les deux franges en ce qui concerne sa gouvernance, a eu besoin en fait de casser un peu les alliances qui existaient pour ce qui provoque cette reconfiguration. Dans un tel contexte, il est évident, lorsque vous observez un peu le comportement d'une partie des oppositions en Afrique, notamment en Afrique francophone, qu'on assiste à un saut qui peut, où des acteurs majeurs qui étaient favorables à un camp essaient de rejoindre notre camp, ou essaient de rejoindre le camp de celui qui est au pouvoir, ne serait-ce que pour se garantir soit leur suivi politique, ou pour se donner une certaine impunité politico-judiciaire.
Merci beaucoup, Léonce. Merci. Liliane ?
Oui, on va marquer une pause, Saint-Tiche, et on poursuit encore le débat quelques minutes sur la RDC.
BBC Afrique, Africa Radio.
Et notre grand témoin cette semaine est Jean-Thierry Montsenepo, président national de la Ligue des jeunes de la Convention des Congolais Unis, CCU, parti de l'ancien porte-parole du gouvernement sous Kabila, Lambert Mende. Deux journalistes sont avec nous. Albert Mbaya, journaliste et analyste politique centrafricain, il est en ligne de Bangui. Léon Sengamay, journaliste manager du site d'information banuto.f.info à Cotonou. Vous pouvez retrouver cette émission sur africaradio.com et bbcafrique.com et partagez vos observations avec nous sur la page Facebook, facebook.com/débat BBC Africa Radio. Saint-Tiche, on va peut-être donner la parole à Albert sur ce ralliement de Lambert Mende à l'Union Sacrée. Albert, vous êtes là?
Oui, je vous suis, consoeur, je vous suis parfaitement.
Voilà, certains pensent que la force de Lambert Mende, Albert, réside dans sa capacité à se repositionner politiquement et de manière opportuniste très rapidement à chaque fois que le régime change. Est-ce que vous pensez qu'il s'agit de cela ou c'est que il a décidé de rejoindre l'Union Sacrée par conviction?
Je pense que le comportement de M. Lambert Mende n'a rien de surprenant. Il faut se dire que sur le continent africain, c'est une coutume aujourd'hui. Nous avons des régimes qui sont en place. Il y en a qui ont 10 ans, d'autres 20 ans, d'autres 30 ans. Il y en a encore qui ont dépassé la trentaine d'années déjà. Mais à chaque occasion...
Et justement,
à
ce sujet, Lambert Mende est un transfuge de l'UDPS. Il a été dans le gouvernement de Étienne Tshisekedi sous Mobutu, puis de Léon Kengo Wadondo aussi. Et aujourd'hui, Joseph Kabila. Et aujourd'hui, il se rapproche de celui de Tshisekedi.
Donc, vous confirmez avec moi que c'est une...
Je ne confirme pas, je donne juste des éléments.
C'est un rappel,
voilà.
C'est devenu une culture des hommes politiques en Afrique. En fait, c'est une question de conviction, une question de fidélité également. Et donc, M. Lambert Mende aujourd'hui change de navire, qu'il quitte le FCC pour rejoindre l'Union Sacrée. Cela fait partie des us et des coutumes de leaders politiques.
Notre correspondant est en communication. Notre correspondant est en
communication. Eh bien, Liliane.
Bon, Albert? Albert, vous êtes là? Je pense qu'on va retourner à Albert tout à l'heure, Saint-Tiche. Le temps peut-être de m'adresser à notre invité, M. Montsenepo. M. Montsenepo, vous dites que le leader de votre parti, Lambert Mende, a rejoint le FCC, l'Union Sacrée par conviction. Vous nous avez dit que le président Mende, de votre parti, a eu l'accord de l'autorité morale du FCC. Comment rester membre du FCC, clamer sa loyauté, tout en roulant désormais pour l'Union Sacrée? Vous venez de dire que s'il y avait une motion de censure contre le Premier ministre Ilou Kamba du FCC, vos membres voteraient contre le Premier ministre.
Merci madame. Je voudrais d'abord, avant de répondre à votre question, si vous me permettez de revenir rapidement à ce qui s'est dit ici, parce que j'ai entendu opportunisme, j'ai entendu positionnement, j'ai entendu chasse aux sorcières. Madame, je vous rappelle ici et je rappelle à l'intention de nos co-débatteurs et des auditeurs qu'il n'est pas ici question de fouiller une quelconque chasse aux sorcières, parce que ça fait 2 ans que le président Tshisekedi est en train de conduire la destinée de la République démocratique du Congo. S'il y avait des questions de justice, ça aurait déjà été réglé. Nous serions peut-être déjà en prison si nous étions répréhensibles par la loi. Donc ce n'est pas ça qui motive aujourd'hui le pas que la CCU a eu à marquer en allant vers l'Union Sacrée. Et puis je voulais vous préciser que Lambert Mende n'a jamais été un membre de l'UDPS. Il a travaillé avec l'UDPS à l'époque de Papa Étienne Tshisekedi, père son âme, lorsqu'il y avait l'Union Sacrée sous Mobutu. Et il était, lui, leader de son parti politique qui était MNC Lumumba originel. Donc ça n'a rien à voir avec une appartenance de l'UDPS et qu'aujourd'hui, il retournerait vers l'UDPS. Ça n'a rien à voir. Maintenant, par rapport à votre question, lorsque vous demander de savoir si aujourd'hui Lambert Mende clame son appartement au FCC alors qu'il roule. Mais madame, vous oubliez qu'en 2019, c'est l'autorité morale du FCC qui nous a emmenés vers le président Félix Tshisekedi pour que nous puissions travailler avec lui dans le cadre de l'accord de coalition FCC-CAS. Vous oubliez que la République démocratique du Congo est une nation qui est dirigée par un seul président de la République. Travailler avec lui, ce n'est pas trahir la mémoire du président honoraire Joseph Kabila. Encore que ce dernier a souhaité à ce qu'il y ait un rapprochement avec le président au lendemain de cette crise née de la chute de la coalition FCC-CAS. Donc je ne vois pas en quoi est-ce qu'ici on peut parler d'une
Monsieur Monessepo, mais de toute façon, vous avez entendu aussi certains de vos détracteurs dire que Lambert Mende est un habitué du pouvoir et qu'il lui est impossible d'être à l'opposition. Ce n'est pas dans. Il n'a pas l'âme d'un opposant. Ce n'est pas non plus dans ses cordes.
Je pense que ces personnes oublient l'histoire. Et c'est pour cela qu'ils se permettent de se lancer dans des sinécures qui ne tiennent pas. Lambert Mende a commencé sa vie comme opposant du maréchal Mobutu, et ça pendant plusieurs années. Ils n'ont eu à travailler que pratiquement 7 mois au soir du régime de Mobutu dans le cadre d'un accord politique. Ensuite, lorsque Moïse Laurent-Désiré Kabila est arrivé au pouvoir et s'est mis dans une posture, disons-le, de dictateur, Lambert Mende s'est lancé dans une opposition contre lui. Il n'a jamais travaillé avec Moïse Laurent-Désiré Kabila jusqu'à ce que son fils accède au pouvoir et que, par rapport aux accords de Sun City, il vienne travailler ici au pays avec Joseph Kabila et depuis, il a travaillé avec lui jusqu'à la fin de son régime en 2018. Merci. Comment est-ce qu'on peut parler, dans ce cas d'espèce, d'une personnalité qui n'est pas du tout stable? Ça n'a aucun sens.
Merci beaucoup, M. Moussenepo. Une question, vous rejoignez l'Union Sacrée où on retrouve déjà des personnalités comme Moïse Katumbi ou encore Jean-Pierre Bemba qui sont des personnes que Lambert Mende a en quelque sorte combattues quand il travaillait avec, quand il était au pouvoir avec Joseph Kabila. Et Lambert Mende qui a aussi déclaré que le président Tshisekedi devrait faire attention de ne pas drainer, je cite hein, ses propos, aussi bien des bonnes graines que de l'ivraie. Est-ce qu'il parle de Moïse Katumbi ou de Jean-Pierre Bemba?
Non, madame, cette citation qui est un conseil entre frères n'a rien à voir avec une personnalisation ou une personnalité quelconque.
Mais il a parlé d'adhésion fantaisiste. Il a parlé d'adhésion fantaisiste.
Il y en a, mais par courtoisie, nous ne sommes pas là pour commencer à citer que tel est venu par fantaisie ou pas. C'est au président de la République de juger cela. Mais je peux vous dire, madame, que dans le cadre d'une lutte politique, il n'y a pas question de dire qu'on est ennemi lorsque on s'oppose à des idées. Rappelez-vous, le président Joseph Kabila est l'actuel chef de l'État. Se sont tirés ici, en termes d'idéologie, en termes de lutte politique, pratiquement durant tout le mandat de Joseph Kabila. Mais en 2019, nous les avons vus travailler ensemble dans le cadre de l'accord de coalition FCC-CAS. Qu'est-ce qui empêcherait aujourd'hui à ce que Lambert Mende travaille avec Moïse Katumbi ou Jean-Pierre Bemba, qui sont des Congolais, encore que hier, le débat se portait sur des questions d'idéologie et des questions de position politique.
Merci beaucoup. Cynthie, je pense qu'on va passer au prochain sujet.
Exactement.
Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
Et notre grand témoin est Jean-Thierry Monsenepo, président national de la Ligue des jeunes de la CCU, parti de Lambert Mende. À RDC, Léonce Gamay, journaliste manager du site d'information banuto.info à Cotonou, est également avec nous, de même que Albert Mbaya, journaliste et analyste politique centrafricain à Bangui. Notre second sujet, c'est la Centrafrique, justement. La capitale Bangui est sous la menace de groupes armés. 6 d'entre eux réunis au sein de la CPC, Coalition pour le changement ont mené des attaques cette semaine à la périphérie de la ville. La CPC qui a lancé ses opérations quelques jours avant le double scrutin présidentiel et législatif du 27 décembre dernier contrôle une bonne partie du pays. Albert, vous êtes à Bangui. Comment les populations de la capitale vivent-elles cette nouvelle poussée de violence et comment s'organise-t-elle face à cette menace de la CPC?
Le conseil, la CPC est une situation qui ne surprend personne ici à Bangui. Les Centrafricains ont vu venir la CPC. Bien avant les élections, les gens avaient déjà prévu que la CPC finirait par basculer dans ce qui est en train de se passer justement. Parce que les leaders de cette CPC avaient commencé par exiger la mise en place d'une transition en lieu et place des élections. Pour des raisons qu'eux seuls connaissent. Et finalement, lorsqu'ils n'ont pas pu obtenir cette transition, cette violence a été imposée aux populations. Le jour même des élections, les habitants de nombreuses régions ont été empêchés d'aller voter.
On n'a pas beaucoup, de temps. Il nous reste à peine 20 minutes pour les deux sujets. Albert, pouvez-vous nous dire exactement, répondre à la question?
Maintenant, la population centrafricaine en général et celle de Bangui, au moment où je vous parle, mais absolument opposé à cette action de la CPC parce que les gens l'avaient prévu justement, c'est ce que j'expliquais. Et moi, je vous parle, les Centrafricains, les Banguissois, ayant vu venir ce mal, ont pris leur disposition. En tout cas, les gens n'ont plus réagi comme il y a 5-6 ans. Et c'est plutôt une sorte de coopération entre les populations et les forces de la MINUSCA, Nations Unies, une coopération entre les populations et les forces de l'ordre pour traquer justement ceux que les gens considèrent vraiment comme des bandits de grand chemin. Voilà la lecture que les Centrafricains aujourd'hui ont de cette CPC-là.
Merci. Saint-Tiche.
Oui, alors Albert, dites-nous un peu, qu'est-ce qui a changé dans la ville après cette attaque de mercredi? Est-ce que le dispositif a été renforcé sur le terrain? Est-ce que ce qui a été fait rend les populations plus sereines, justement?
En tout cas, les populations s'étaient réveillées le mercredi matin sous les coups de ces armes lourdes et légères. C'est vrai, les gens ont paniqué pendant un certain temps. Et donc le jour suivant, donc le jeudi, tout le monde est resté à la maison pour bien observer. Mais en tout cas depuis ce matin, depuis vendredi matin, donc aujourd'hui, les gens ont simplement repris la vie comme par le passé. Mais sur le plan sécuritaire, on a remarqué que les autorités ainsi que les troupes onusiennes, en tout cas, ont renforcé toutes les positions autour de la capitale pour éviter justement que ces gens ne viennent encore perturber la quiétude des populations.
On parle déjà de pénurie de denrées alimentaires au niveau de Bangui, les routes étant bloquées, ce qui empêche donc les produits de l'extérieur, notamment du Cameroun, d'arriver jusqu'à la capitale. C'est clairement une stratégie d'asphyxie. Est-ce que cela pourrait obliger le président sortant, donné vainqueur par l'ANE, à négocier avec les groupes rebelles?
Ce n'est pas la première fois que les rebelles essaient de couper la voie qui mène au Cameroun, la voie par laquelle presque tout arrive à Bangui. Ce n'est pas la première fois. Je vous signale qu'il y a encore 2, 3, 4, 5 ans en arrière. En tout cas, avant les élections de 2016, les rebelles avaient déjà utilisé cette même stratégie pour couper la voie vers le Cameroun. Mais l'appui de la communauté internationale, justement, notamment celui de la MINUSCA, avait permis de dégager cette voie et il y a actuellement un travail qui est fait dans ce sens. Mais malgré cette insécurité que les gens du CPC ont essayé d'imposer sur la voie qui mène au Cameroun, en tout cas, c'est vrai, les coûts ont monté, ont grimpé sur les produits alimentaires à Bangui, mais les populations arrivent quand même à vivre parce qu'il y a d'autres canaux par lesquels il y a ces produits qui arrivent dans la capitale.
Mais Monsieur Monsenepo, la RDC, votre pays, subit fortement les conséquences des secousses actuelles en République centrafricaine. Comment le gouvernement et les autorités actuelles gèrent-elles la situation avec l'afflux massif justement des réfugiés?
Effectivement, c'est parmi les priorités que le président de la République compte attaquer dès qu'il va prendre la présidence de l'Union africaine pour appeler à un dialogue au niveau de ce pays, puisque la République démocratique du Congo est experte en ce genre de dialogue. En 1998, plusieurs armées se sont battues ici, mais actuellement, l'ordre a été donné notamment au gouverneur de la province du Sud et du Nord, au Bangui, qui jouxte la Centrafrique, ou par la grande rivière d'Ubangi, plusieurs réfugiés sont en train d'arriver vers la République démocratique du Congo, et c'est une situation humanitaire qui risque de virer à une catastrophe. Mais déjà, le gouvernement a envoyé quelques vivres pour soutenir le gouvernement provincial qui accueille ces réfugiés. Et je crois que l'HCR aussi est déjà en train de se préparer pour essayer d'organiser le soutien à ses frères et sœurs de la République centrafricaine qui sont en train de venir vers la République démocratique du Congo, surtout dans le contexte où la pandémie à coronavirus est en train de sévir. Et on apprend déjà qu'il y a des problèmes liés à la maladie de choléra, vu le nombre de personnes et les moyens qui sont mis à leur disposition, qui sont très précaires pour la vie là où ils se sont cantonnés.
Merci, Monsieur Monsenoupo. Nous allons prendre l'avis de Léonce Gabaye depuis Cotonou. Léonce, cette poussée de violence soudaine, parce que malgré ce que Albert dit, on ne s'attendait pas à ce que les rebelles puissent approcher aussi près de la capitale Bangui. Pour certains, il n'y a pas de risque de revivre ce qui s'est passé il y a quelques années, parce que le pouvoir Touadéra, quoi qu'on en dise, serait plus fort grâce à ses alliés. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, ce qui se passe en Centrafrique actuellement est la suite de cette interminable guerre pour le contrôle des ressources du pays. Et c'est vrai que les perspectives, faudra peut-être voir, étant donné qu'il y a de nouveaux acteurs géopolitiques qui sont entrés en jeu, donc je parle là de la Russie, notamment du Rwanda, qui soutiennent d'une façon le président Touadéra. Donc peut-être qu'il aura la possibilité, avec cet appui-là, s'il arrive à confirmer, notamment à convaincre la communauté internationale de la légitimité de son élection, avoir la plus logique qu'il faut pour dérouter les rebelles. Ou l'autre situation, c'est que qu'on résiste, ce à quoi on a assisté avant 2015-2016, c'est que les rebelles réussissent à prendre le contrôle de la capitale et que cette rébellion débouche sur une déstabilisation du régime du Touadéra. En tout état de cause, il faudra que les acteurs puissent vraiment discuter, dialoguer. Parce que, in fine, c'est la population qui paye le plus tribut de cette
crise. Albert, Saint-Tiche disait que peut-être la situation ne peut pas être comparable à celle des années antérieures. Je suppose que c'est de 2013 que vous voulez parler, Saint-Tiche. Mais en tout cas, il reste qu'on reproche au président Touadéra de demeurer le président de Bangui. Et il y a aussi que la CPC est aujourd'hui fortement armée. Le Tchad, suspecté de soutenir les rebelles, a démenti. Mais comment comprendre que quatre forces réunies, à savoir les forces armées centrafricaines, la MINUSCA, les Russes et Rwandais, soient incapables de neutraliser la coalition armée?
Je ne sais pas s'il faut parler d'incapacité de ces quatre forces réunies. Il ne faut pas oublier que la RCA justement est en plein processus électoral. Et les autorités n'aimeraient pas que ce processus soit perturbé. C'est justement là le piège qui a été tendu par la CPC qui voulait déclencher la guerre en pleine élection afin d'empêcher les gens d'aller aux urnes. Et donc vous comprenez que les résultats du premier tour ayant été proclamés provisoirement par l'autorité, la NE, et aujourd'hui le pays attend la décision finale de la Cour constitutionnelle. Je pense que pendant cette c'est entre-temps-là, en tout cas, les autorités n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait vraiment des problèmes qui s'aggravent.
Mais là, je parle de la force de frappe aujourd'hui de la coalition rebelle. D'où vient-elle? D'où vient qui les soutient? Et comment expliquer le fait que toutes ces forces réunies, je les ai citées, ne parviennent pas à contenir et à empêcher l'avancée de ces rebelles qui ont, comme on le disait, opéré des attaques à la périphérie de Bangui?
Mais lorsque vous regardez la cartographie des mouvements de ces rebelles, vous comprenez que ça a été une situation préparée de longue date. M. Bozizé est venu porter le chapeau de cette crise en réalité, n'est qu'un instrument entre les mains des étrangers, pour la simple raison que...
Qui sont ces étrangers? Le Tchad a démenti.
En tout cas, les pays voisins n'ont jamais dit oui quand ils sont impliqués, mais toutes les crises que la RCA a vécues mais viennent des voisins, en particulier le Tchad, qui a toujours envoyé ses troupes pour perturber ce pays. Ils diront jamais oui, ça c'est connu, ça c'est la tradition. Mais ce que je voulais que nous notions, c'est que les gens qui attaquent la RCA aujourd'hui, quand vous prenez sur 100 combattants, au moins 95 sont des gens qui ont été recrutés en Libye, au Niger, au Tchad, au Soudan, partout. Vous comprenez que c'est du mercenariat international, mais en tout cas financé par des puissances extérieures. Et donc les autorités centrafricaines sont obligées de bien observer le type d'action de ces gens-là avant de réagir.
Donc vous voulez dire qu'il y a une sorte de duplicité de la communauté internationale ?
Il n'y a pas de duplicité. En tout cas, la communauté internationale est du côté du gouvernement. En tout cas, s'il n'y avait pas les Nations Unies aujourd'hui en Centrafrique, peut-être on a déjà vécu le chaos. Aujourd'hui, je vous dis que le processus électoral passe avant toute chose et les autorités sont obligées d'en tenir compte. Et je pense que le temps de réaction pour mettre ces gens dehors n'est pas loin, à mon avis.
Nous allons passer au dernier sujet.
Sans transition,
comme d'habitude, c'est le Bénin, où un front anti-talon a vu le jour et il a été créé par certains partis politiques. Nous citerons les démocrates de l'ex-président Yahi Boni, la dynamique unitaire pour la démocratie et le développement de Valentin Houdé, ou encore la grande solidarité républicaine de Antoine Guédou. Et puis, il y a ce mouvement porté par le professeur Joël Aïvor. Un professeur d'université est entré en politique ces derniers mois et qui, clairement, est partant pour l'élection présidentielle du 11 avril. L'objectif de ce regroupement est donc clair, faire face au président Talon, que l'opposition béninoise accuse d'avoir verrouillé cette élection présidentielle du 11 avril prochain, notamment avec la clause du parrainage. Nous avons avec nous Léonce Gamaï. Léonce, vous êtes journaliste manager du site d'information banuto.info. Dites-nous un peu, politiquement, en quoi est-ce que ce front, cette alliance, ce regroupement devrait inquiéter le président sortant si jamais il brigue un second mandat, lui qui n'a toujours pas dit clairement s'il partait à l'élection?
D'abord, il faudra noter que depuis l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon en 2016, ce n'est pas la première fois qu'on assiste à la création d'un front ou d'une coalition de l'opposition contre sa gouvernance, notamment la gouvernance politique et démocratique. Déjà en 2017, il y avait eu un front, le Front du Succès Patriotique, ensuite en 2018, une coalition pour la défense de la démocratie au Bénin, et dans le cadre des élections législatives auxquelles l'opposition n'a pas pu participer, il y a eu la résistance.
Alors, oui, justement, d'où la question, en quoi est-ce que ce regroupement-là, ce nouveau front, peut-il inquiéter Patrice Talon ou devrait-il inquiéter Patrice Talon?
Non, on peut dire deux choses à ce niveau. La première chose, c'est d'abord la légitimité, une certaine légitimité qu'ont les acteurs de ce front-là. Donc, quand vous prenez le professeur Joël Aïvor, qui a une certaine légitimité scientifique et professionnel à parler des questions de constitution, donc de démocratie et autres. Le Front est aussi constitué du Parti des démocrates, de l'ancien président, de l'ancien chef d'État Boni Yahi, qui est le démocrate, le parti qui est dirigé par Éric Mbeke, ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. Donc des personnalités qui ont quand même au plan politique une certaine notoriété.
Mais vous parlez de notoriété. Oui, pardon, Léonce. Allez-y, l'autre chose, je vais poser la question ensuite.
Oui, donc en termes de force, c'est un peu ça. Et l'autre chose, l'autre force que ce front peut avoir, c'est depuis que ce débat sur l'élection présidentielle a commencé avec les différents tiraillements, c'est maintenant qu'on a un discours collectif d'une partie de l'opposition. Il faudra dire que le front n'est pas constitué de toutes les forces de l'opposition. C'est juste c'est quelques forces qui se sont mises ensemble. L'opposition au Bénin est actuellement plurielle, avec plusieurs tendances. Une tendance qui est qualifiée de radicale et une tendance qui est qualifiée de modérée. Donc ceux qui ont mis en place ce front-là sont une partie des organisations et acteurs de l'opposition considérés comme radicale.
Merci. Alors, Léonce, vous semblez dire que cette coalition souffrant de l'opposition est solide, mais les deux principaux partis d'opposition, ceux d'Adiavon et de Candide Azala, ils n'en font pas partie. Pour le moment.
C'est ce que j'étais en train de relever pour dire que tous les acteurs de l'opposition radicale ne sont pas encore membres de ce front. Vous avez mentionné tantôt l'absence du parti Restaurer l'espoir des candidats d'Anaï
et l'USL de Adiavon.
Et l'USL d'Adiavon. Mais je n'ai pas encore affirmé que le front est solide. Et c'est d'ailleurs l'un des défis de ce front-là, de pouvoir construire sa cohésion, de pouvoir qu'on se construise une cohésion, une solidité. Parce qu'après, le front pourrait être confronté à ce que j'appelle l'arbitrage des ambitions.
Mais est-ce qu'il ne se fait pas tard pour les tergiversations, sachant que l'élection, c'est le 11 avril?
Et justement, c'est là, vous m'amenez là à évoquer les faiblesses de ce front qui, malgré les fortes personnalités qui la constituent, a quand même des faiblesses. La première faiblesse, c'est lorsqu'on regarde l'agenda, parce que là, maintenant, la distribution des formulaires de parrainage nominatif a commencé à la Sénat. Ça doit prendre fin le 31 janvier. Et début février, l'enrichissement des candidatures commencera au niveau de la finance et la commission électorale. Commencera au niveau de la commission électorale. Donc on se demande quelles sont alors les marges de manœuvre de ce front-là, de peut-être de contribuer à suspendre ou à impacter l'agenda, le calendrier électoral qui est déjà défini.
Et l'autre problème,
justement, de ce front, c'est que ça devient un front politique. Derrière, il n'y a pas encore une mobilisation citoyenne. Il n'y a pas encore une mobilisation.
Et une stratégie est-ce qu'il y a une vue sur la stratégie de ce front, justement, Léonce?
Non, pas encore vraiment de visibilité. C'est vrai qu'elle a étalé ses revendications dans sa déclaration de constitution. Donc, on a une idée claire de ces revendications. Mais derrière, on ne sait pas encore la stratégie qu'elle va utiliser. Est-ce qu'elle va présenter un candidat unique à la présidentielle? Est-ce qu'elle va présenter plusieurs candidats?
Merci.
Et d'abord, est-ce qu'elle est disposée même à participer à l'élection présidentielle si jamais ses revendications ne
sont
pas à être satisfaites? On en sait rien. Et donc, je disais tantôt...
Non, Léonce, pardon, il nous reste 5 minutes. Voilà, vous débattez tout seul depuis un moment. Donc, on va écouter notre invité sur le sujet. Il nous reste à peine 5 minutes sur le sujet. Monsieur Monsenepo, sur cette tractation de l'opposition pour faire face à Patrice Talon lors de la présidentielle du 11 avril. On a l'impression que le temps est un handicap pour cette opposition.
Je pense qu'ils n'ont pas de choix pour essayer de contrer la machine politique de M. Talon qui a dirigé le Bénin comme il faisait aussi avec son entreprise de coton, c'est-à-dire avec assez de fermeté, qui n'a pas donné une possibilité à l'opposition de vraiment bien s'exprimer. Rappelez-vous de ce qu'a vécu l'ancien président Boni Yayi. Au-delà de cela, il faudrait cette coalition d'opposants pour essayer de rappeler aux populations du Bénin que M. Talon avait promis de ne faire qu'un seul mandat et qu'aujourd'hui qu'il est en train de revenir, quoiqu'il n'a pas encore dit ça ouvertement.
Mais la loi le lui permet aussi, hein.
La loi le lui permet, mais c'était une promesse de campagne qui a permis à ce qu'il puisse renverser l'ancien dauphin de Boni Yayi. Donc comprenez qu'aujourd'hui, les présidents de la République, les hommes politiques sont jugés au regard des promesses qu'elles font aux populations. Et parmi ces promesses, il y a aussi le bilan. Aujourd'hui, le Bénin a certes une croissance positive, mais cette croissance ne se sent pas dans la vie des Béninois. Donc aujourd'hui, je crois que cette coalition politique est importante pour permettre quand même à ce qu'il y ait un vrai équilibrage de force lors des prochaines élections au mois d'avril.
Merci beaucoup, M. Monsenepo. Dernière réaction, celle de Albert, rapidement. Albert, sur le Bénin.
Oui, moi, je considère que les Béninois, ou du moins l'opposition béninoise, est en train de reproduire ce qu'on voit partout en Afrique. Ce sont des coalitions de la dernière minute où, pour des questions de lutte en vue de changer le régime qui est en place, on se réunit très rapidement, mais dans la catastrophe, dans la précipitation,
alors
que l'autre qui est en face a eu le temps de se préparer. Voilà, ça c'est l'impréparation, et ça n'aboutit presque jamais, parce que vous avez toujours des ambitions en interne, Vous avez les partis qui sont puissants de l'opposition, mais qui ont également leurs ambitions et qui ne veulent pas être avalés par la coalition. Et donc, c'est en hésitant qu'ils vont avancer jusqu'aux élections où ils seront battus. Ça, c'est bien prévisible.
Hein. Merci. Merci. Monsieur Montsenepo, en quelques secondes, un résumé de cette émission, une conclusion générale, et puis peut-être en répondant à la question de cet auditeur qui appelle le président Tshisekedi de se méfier de certains types de ralliements, en évoquant celui de Lambert Mende.
Merci beaucoup, madame. Je pense et je veux préciser ici que la Convention des Congolais Unis, notre regroupement, a rejoint la vision du président de la République de l'Union sacrée, de la nation, pas par rapport à un souci de positionnement ou pour fuir je ne sais quel sorcier, mais c'est plutôt parce que nous avons un amour pour le Congo. Et nous sommes convaincus que ce pays qui, depuis 1960, n'a connu que des problèmes lorsque les fils et filles de cette nation se sont séparés et qu'ils ont trouvé des solutions en étant ensemble, ne peut se construire demain que lorsque nous tous nous apportons notre pierre à notre chef de l'État, et c'est ce que nous avons décidé de faire.
Merci beaucoup.
Maintenant, si aujourd'hui il faut penser que le président Tshisekedi doit se méfier de nous, je pense que l'avenir va plutôt contredire votre auditeur. Il va se rendre compte que notre parti et son mentor vont réellement travailler pour le pays aux côtés du président Félix Tshisekedi Tshilombo.
Jean-Thierry Montsenepo, président national de la Ligue des jeunes de la Convention des Congolais Unis, CCU, parti de Lambert Mende en RDC, vous étiez notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Albert Mbaya, journaliste et analyste politique centrafricain. Léonce Gamay, journaliste manager du site d'information banuto.info. Merci d'avoir été avec nous. Réalisation à Dakar, Abdou Diop à Paris, Hugo Vallière, chargé de production, Didier Ladislas Londo. Votre émission est bientôt à écouter sur bbcafrique.com et africaradio.com, et venez partager avec nous vos observations et avis sur facebook.com/débat BBC Africa Radio. À la semaine prochaine, Saint-Tiche.
Très bonne semaine à vous, Liliane.
Merci, au revoir.